Quotidien avec Hélène Denis.
Elle est de retour. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. Bonjour Mathieu Tessier.
Bonjour Hélène Denis.
Hey, ça fait longtemps, me semble. Hein?
Je vous ai presque pas reconnu.
Ah oui, comment je dois prendre ça, là?
Très bien.
Oui, très bien. Bon, d'accord. Alors, Mathieu qui m'a accueilli avec un large sourire et surtout un café super corsé dont je rêvais.
Oh, bon, oui. Tiens.
Alors, merci beaucoup pour tout ça, Mathieu. Mathieu Tessier qui est à la mise en onde, qui n'était pas en vacances. Lui, ses dernières journées, qui est toujours au travail et qui porte ce matin un T-shirt où on peut lire « Poupée rustre ». Alors, il ne change pas, et moi non plus d'ailleurs, je reviens requinqué, si je peux dire, et je remercie infiniment Denis Martin Chabot, qui était aux commandes, au micro, durant ces derniers jours, qui a assumé l'animation de cette émission. Je pars toujours l'esprit tranquille lorsque Denis Martin est aux commandes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aura au menu? Il y aura, bien sûr, la chronique de Dominique Tremblay, en plein jeu paralympique. Il sera avec nous à 10h30. Nous aurons aussi la chronique économie avec Michel Poitvin, qui est professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Et puis Maxime Denomé, qui était parmi vous, je crois bien, la semaine dernière. Denis Martin l'a accueilli pour parler d'une pièce qui est présentement à l'affiche à la Petite Licorne en tant que metteur en scène. Et moi aussi, je l'accueille ce matin, mais cette fois à titre de comédien, puisqu'il jouera le rôle titre de Dracula dans la pièce Dracula, un nouveau règne du mal, qui sera présenté à partir du 17 mars au théâtre Denise Pelletier. Et puis, on a perdu un grand auteur, compositeur, interprète. Et Mathieu, vous me disiez que c'était en quelque sorte notre Michel Fugain à nous. Jacques Michel, un talent extraordinaire qui est né en Abitibi-Témiscamingue, qui nous a quittés il y a quelques jours à l'âge de 84 ans. Lui qui était atteint d'un cancer et qui a fait la demande à mourir, l'aide médicale à mourir. Mais ses chansons vont rester éternelles et son énergie aussi, quand on y pense, ça nous donne de l'énergie. Jacques Michel, ben salut et merci pour tout. Jacques Michel, qui nous a quittés le 5 mars dernier à l'âge de 84 ans. Et si son répertoire, sa vie, sa carrière vous intéresse ou si vous ne la connaissez pas vraiment, eh bien, il y a notre ami Daniel Lachance qui sera de retour pour sa chronique musicale le 18 mars. Et cette chronique sera consacrée à Jacques Michel. Alors, j'y vais avec la une du Devoir, où on parle de guerre au Moyen-Orient, le prix de l'essence fait les frais de la guerre en Iran. Les prix à la pompe observés en ce début de semaine le confirment, la guerre en Iran risque de peser lourd sur le portefeuille des automobilistes. La récente flambée du prix de l'essence pourrait toutefois n'être que la pointe de l'iceberg. Le décalage entre les événements qui surviennent en Iran et le prix payé au Québec s'explique en partie par les inventaires de pétrole. Acheter à un prix inférieur, explique Sebal Ray, professeur à la Faculté de gestion des hôtels de l'Université McGill. Si la guerre n'avait duré que quelques jours, elle n'aurait peut-être même eu aucun impact en raison de ces inventaires. Or, un conflit qui perdure devrait avoir un effet à la hausse sur les prix à la pompe, préviennent les experts. Le monde entier a les yeux rivés sur le détroit d'Ormuz ou d'Ormuz, un passage où transite 20 % du pétrole mondial, le trafic qui est essentiellement bloqué, ce qui se répercute aujourd'hui sur le prix du pétrole brut. Et donc, c'est dans à la une du Devoir d'aujourd'hui. Et on parle aussi des pêches à la une du Devoir. Pourquoi les pêches ont perdu leur parfum? La fertilisation des vergers serait en cause. C'est Pauline Gravel qui signe le texte. La qualité des pêches qui nous sont offertes dans les supermarchés n'est souvent plus celle d'antan. Ces pêches peuvent être juteuses lorsqu'elles sont bien mûres, mais l'arôme caractéristique qui rend ce fruit si succulent semble avoir disparu. La fertilisation à outrance des vergers serait à l'origine de cette disparition. Une étude publiée dans Horticulture Research qui a permis d'identifier les mécanismes biochimiques par lesquels un excès de fertilisants azotés viendrait bloquer la synthèse du composé volatile responsable de l'arôme distinctif de la pêche, vient confirmer cette hypothèse. La pêche possède un arôme qui participe grandement à sa flaveur, l'ensemble des sensations olfactives, gustatives et tactiles perçues durant sa dégustation. L'arôme herbacé des pêches qui ne sont pas encore mûres est attribuable à la production d'alcool et d'aldéhyde par le fruit. À mesure que celui-ci mûrit, ce sont plutôt des esters et des lactones volatiles qui prennent le dessus et qui génèrent des notes fruitées. Les lactones, y compris la gamma-décalactone, ce sont des mots qu'on n'utilise pas très souvent, sont des contributeurs clés à la flaveur de la pêche et donc à l'arôme caractéristique que celle-ci exhale quand elle est mûre. Mais des engrais azotés sont souvent utilisés en surabondance dans les vergers afin d'en maximiser la production. Or, cette fertilisation à outrance a conduit au déclin de la qualité de la flaveur de la pêche, dont la douceur et l'intensité de son parfum. C'est tellement triste, mais il y a quand même un peu d'espoir. La découverte effectuée par cette équipe servira, on l'espère, à améliorer l'aménagement et la gestion des vergers en clarifiant comment un excès d'azote supprime la biosynthèse des arômes. L'étude révèle d'ailleurs une base scientifique pour optimiser la fertilisation et atteindre un équilibre entre rendement et qualité. Elle permet aussi d'identifier des cibles à viser, notamment par des approches biotechnologiques pour mieux maintenir l'arôme des fruits, parce qu'il ne faut pas perdre le goût de la pêche, ça serait vraiment triste. Et il y a plusieurs fruits aussi, autres que la pêche, qui commencent à goûter moins bon. Je poursuis les unes des journaux avec le Journal de Montréal. 50 $ à 120 $ de plus par mois pour faire le plein. Merci, Donald. Alors, c'est bien dit avec sarcasme, vous l'aurez compris. La guerre en Iran lancée par Donald Trump coûte déjà 20 cents de plus le litre d'essence qui pourrait vite atteindre 2 $ si le conflit persiste. Concrètement, depuis que les attaques ont frappé au Moyen-Orient, le conducteur d'une voiture standard verse 12 $ de plus chaque fois qu'il remplit son réservoir. Pour les propriétaires de camionnettes, la facture a augmenté de 30 $ dans les 7 derniers jours. En faisant un plein par semaine, ce sont des augmentations de 48 à 120 $ pour les consommateurs. Quand l'essence monte, tout monte, s'inquiète Yvan Bourdua. Il faut s'en attendre et se serrer les coudes. Cette flambée des coûts pourrait faire grimper le prix du litre d'essence ordinaire au Québec jusqu'à 2 $ d'ici la fin de semaine. Rien n'indique qu'on ne va vers cette direction-là, affirme l'expert Yvan Cliche, qui est spécialiste en énergie à l'Université de Montréal. Il prévoit que les hausses se poursuivront tant et aussi longtemps que les pétroliers ne pourront circuler dans le détroit d'Ormuz. À la une de la Presse Plus, on parle aussi de cette guerre au Moyen-Orient et du comportement erratique, c'est moi qui le dis, de Donald Trump. Conflit au Moyen-Orient, où s'en va Trump pendant que se précise la responsabilité américaine dans le bombardement d'une école? Le président des États-Unis lance des messages déroutants sur la durée de la guerre en Iran et les ambitions de la Maison-Blanche, et la chronique d'Yves Boisvert s'intitule « Un chef de guerre sans plan ». Aussi à la une de la Presse Plus, conflit au Moyen-Orient, choc à la pompe et à l'épicerie, point d'interrogation, ce qui attend le consommateur, et un dialogue avec Philippe Mercure, joué dans un orchestre à 10 ans. Tous les enfants devraient avoir le droit d'apprendre la musique. J'y reviendrai d'ici la fin de l'émission.
Les malgré tout, ça va aller. Un jour, c'est sûr, on aura pied. On pourra marcher sur la mer. Ceux qui se lèvent avant l'aurore, un café chaud quand tout le monde dort, c'est sûr, on ira voir la mer. Et malgré tout, j'y crois encore. Paraît qu'il y a même des trésors enfouis quelque part dans la mer. Un jour j'emmènerai mes enfants découvrir tout ce que j'ai pas vu. Eux c'est sûr, ils auront le temps. Alors on se lève, on se relève, les bras devant, un sou dans la machine. Parfois, tout nous tend les bras et on va de l'avant. Les malgré tout font de leur main et de leur mieux tous les matins pour un avenir même incertain. Moi, tout ce que je fais, c'est pour demain, pour laisser quelque chose, même à rien, pour gagner ma vie et mon. Alors on se lève, on se relève, les bras devant, un sou dans la machine, et tout de nous va de l'avant. On se rêve un peu plus grand, un peu ailleurs parfois.
Nicole et sa chanson « Les malgré tout ».
Merci, joli titre. Nous avons le grand plaisir de recevoir Maxime Denommé, qui incarne Dracula, dans la pièce intitulée « Dracula, un nouveau règne du mal » qui est présentée au Théâtre Denis Pelletier très bientôt, à partir du 17 mars, donc dans une semaine jour pour jour, et ce jusqu'au 14 avril. L'adaptation est de Marie-Claude Verdier et c'est Frédéric Dubois qui en signe la mise en scène. Bonjour Maxime.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être là. Maxime, merci. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter le rôle de Dracula?
Ah, ben, je me rappelle, c'est Claude Poisson, feu Claude Poisson, mon ami qui.
Oui, ancien directeur artistique du théâtre, oui, Denis Pelletier, qui est décédé trop vite, malheureusement.
Oui, qui m'a appelé pour m'offrir ce rôle. En fait, il m'a appelé pour me raconter l'histoire de son projet qu'il y avait avec Marie-Claude Verdier d'adapter Dracula. Et après m'avoir raconté toute l'histoire, j'ai dit « Oui, mais c'est pour quel rôle? » Puis là, il fait « Mais Maxime, tu vas avoir 50 ans, là. C'est pour Dracula. »
Ah, oh, parce que Jonathan. Dracula a 50 ans?
Oui.
Je pensais qu'il était éternel.
Oui, c'est Dracula. Ça. C'est... Oui, absolument. Oui, oui. Il cherchait peut-être...
Un comédien de métier?
Oui, puis ben, en fait, c'est que c'est comme les nouveaux méchants. C'est drôle parce que mes derniers rôles sont souvent des méchants.
Mais pour ça, je me sens les méchants.
Oui, c'est vraiment le fun. Mais c'est comme c'est la nouvelle façon de caster les méchants. C'est des gens qu'on s'attendait pas à ça.
Ah oui. Mais c'est drôle quand même. Quand on est comédien, on est supposé de pouvoir jouer tout.
Oui.
Mais il y a encore des espèces de préjugés.
Oui, mais c'est bien justement qu'on est dans l'anti-casting. Là.
Oui, ça vous fait plaisir.
Oui, absolument.
Oui. Est-ce que vous diriez que vous avez des rôles de plus en plus intéressants, plus vous avancez en âge? Vous êtes tellement vieux.
Non, j'ai toujours eu des rôles intéressants.
Oui. Oui. Autant au théâtre qu'à la télévision.
Oui. Cette année, c'est vraiment plus le théâtre qui m'occupe. Ouais.
Maxime, quel genre d'adaptation Marie-Claude Verdier a créé à partir de l'œuvre de Bram Stoker?
Marie-Claude Verdier, faut dire aussi qu'il y a 25 ans, je jouais les urbains à Fred Barry au théâtre Denis Pelletier, puis on jouait un de ses contes qui était... Elle avait gagné un concours comme adolescente.
Ah ouais.
Alors, ça fait très drôle de la retrouver 25 ans plus tard, maintenant qu'elle est autrice professionnelle. Elle a voulu mélanger le mythe de Dracula avec la nouvelle réalité des multimilliardaires de Silicon Valley. Alors, elle s'est très beaucoup inspirée de Peter Thiel, qui est le fondateur de l'agence Palantir, qui vraiment est très influente présentement. C'est une compagnie qui canalise des données, c'est une base de données, mais ils ont une influence sur la sécurité. Ils sont vraiment... C'est une compagnie qui est méconnue, mais qui a vraiment...
Qui a du pouvoir.
Dernièrement, qui a vraiment beaucoup de pouvoir aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Ukraine. Les gens, les gouvernements, en fait, sont au service des gouvernements et des grandes entreprises. Et les gouvernements s'en servent de ces bases de données-là pour les guerres. Ça sert... C'est une compagnie d'intelligence artificielle qui sert... aux guerres présentement. Là, ça a servi à l'Ukraine, là, ça sert pour l'Iran. C'est une IA qui ils ont toutes les données. Ils ont toutes les données de tout le monde avec les caméras de surveillance. Alors, ça a servi à ICE, la police de l'immigration. Ça sert aux guerres et autant aux entreprises pour mieux cibler. Tu sais, il y a quelques années, il y avait Cambridge Analytica qui avait fait rentrer Trump la première fois. C'est parce qu'ils ont aussi recours aux réseaux sociaux pour influencer le vote. Alors, c'est vraiment dangereux. C'est épeurant, en fait. C'est comme un peu la fin de la démocratie, parce que pour ces hommes-là, la démocratie, c'est juste un obstacle, en fait. C'est pas important.
Ouais.
Fait que c'est vraiment...
Ils n'ont pas de principe.
C'est un cauchemar, là. on parle de ça, Marie-Claude nous en parle, et on se rend compte après, dans l'actualité, que c'est présent. C'est même pas une dystopie, on est là-dedans. Fait que, elle a voulu mélanger un peu le mythe en respectant les trajets de chaque personnage du conte de Dracula. Mais dans la réalité de Silicon Valley de notre époque. Alors, Jonathan est un jeune... c'est le jeune premier là, qui se rend à la maison de Dracula. Il veut lui vendre une application...
Dracula, il vit où?
Est-ce
que c'est nommé?
C'est pas dit. C'est comme une espèce de gros bunker. C'est probablement en Californie. C'est un gros bunker où il fait froid, mais c'est pour la conservation des tissus humains et c'est pour aussi les serveurs, parce que c'est vraiment...
Ça chauffe.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Fait que Jonathan, il se rend là pour vendre une application C'est comme une espèce de bague qui donne toutes les informations sur le taux de sucre, l'hémoglobine.
Ah oui, après la montre, la bague?
Oui, c'est ça. Ouais. C'est un peu ce que Elisabeth Holmes a essayé de faire, mais c'était de la fraude, finalement. C'est un peu cette idée-là, mais qui fonctionne.
Et, est-ce que Jonathan sait où il va? Est-ce qu'il sait à qui il va
avoir
affaire?
Ah oui, il veut absolument. C'est comme aller voir Elon Musk pour y vendre son truc.
Ouais.
Alors, tout le monde est très admiratif de
ça pourrait être Dracula Musk?
Oui, absolument.
Ouais.
Ou Peter Thiel.
Ah,
il
oui.
est moins connu, mais encore plus dangereux.
Et est-ce que c'est ben, j'imagine que c'est jouissif, composer un personnage comme celui-là. Là. Comment vous le travaillez? Comment vous l'avez construit?
Je le construis toujours, en fait.
Ouais.
Il me reste une semaine. Ben, c'est en m'informant, en restant curieux, mais concrètement, c'est juste en essayant d'honorer le texte pour ce qu'il est. Essayer d'afficher cette espèce de confiance et ce désir d'immortalité. En fait, ce qu'il cherche, c'est une réponse, c'est un algorithme qui va lui permettre, maintenant qu'il y a toutes les données du monde, parce que il crée un dispositif personnel d'intelligence artificielle, mais en fait, c'est pour avoir les données de tout le monde. C'est là où il y a le lien avec le sang.
Ouais.
Qu'elle fait, Marie-Claude. Mais lui, ce qu'il cherche, c'est l'immortalité, en fait. Et c'est, ce qui est drôle, c'est que c'est pas si loin, parce que dernièrement, on a entendu Poutine et Xi Jinping avoir une conversation intime où... Il parlait de ça.
Mm-hmm.
C'est nos comment nos.
Comme vous dites, vous n'êtes pas dans une dystopie.
Nos grands leaders parlent vraiment d'immortalité.
Ouais.
Ouais.
Est-ce que bon, il veut être immortel, mais il est quand même seul dans son bunker.
Ben, il est avec son acolyte qui est Lamia, qui a créé en fait l'intelligence artificielle. C'est comme si c'était Siri, mais elle s'appelle Lamia.
Jouée par Noémie.
Evelyne Gelina.
Ah, Evelyne Gelina, ouais. D'accord.
Puis elle est un peu inspirée de Ghislaine Maxwell. Voyez-vous, elle s'inspire vraiment de
la conjointe d'Epstein.
Oui, absolument. Qui va recruter des jeunes. Parce que ces gens-là, dans la vraie vie aussi, ils vont recruter des étudiants en informatique quantique.
Mm-hmm.
Ils leur promettent, c'est la liberté.
Ils
sortent des universités pour travailler pour eux.
La grosse manipulation.
Oui, oui, absolument.
Donc, on est quoi dans l'horreur, la satire sociale? On sort de là,
oui.
Puis qu'est-ce qu'on a envie de faire? Changer le monde ou...
Ben, le message,
s'enfermer dans son bunker personnel.
Se débrancher, en fait.
Oui.
Parce que tout ça, c'est basé sur la confiance. Tant que les gens vont être sur leur réseau ou sur le, tout acheter puis donner leur information, c'est comme ils ont rien à se reprocher. Les gens leur donnent leur information. Fait que dans le fond, c'est d'en être conscient,
ouais.
Puis de faire attention à ce qu'on met sur les réseaux puis à quoi on participe.
Mm-hmm. Qu'est-ce qui est décourageant, c'est qu'on est conscient. On en est de plus en plus conscient,
oui.
Et on fait pas grand-chose,
oui.
Pour changer ça.
Oui, puis c'est aussi épeurant, tu sais, de palantir, c'est peu connu, mais c'est incroyable l'influence qu'ils ont. Ils sont en train de devenir...
les maîtres du monde.
Oui, absolument, absolument. Mais ça fait peur aux gens, fait qu'on aime mieux pas en parler, on aime mieux rester dans
mm-hmm.
le déni puis de continuer de poster nos trucs sur Instagram.
Et j'imagine que vous n'êtes pas vraiment...
Parce qu'en fait,
oui.
Sur quoi il joue, c'est le désir de considération, qui est le désir profond de tout être humain. Ils vont...
Mm-hmm. D'être connu.
D'être connu,
ouais.
D'être connu. Puis on le voit aussi dans la pièce, Lucie, la jeune fille sacrifiée, elle est chanteuse, influenceuse. Elle veut être connue et entendue par tout le monde. Alors c'est sûr que ces géants-là misent là-dessus.
Qui vous entoure? Vous avez parlé du personnage de Jonathan. Qui joue Jonathan?
C'est Simon Landry-Désy.
Et il y a Evelyne Gelina,
sinon... Evelyne Gelina qui joue Lamia. Il y a Noémie O'Farrell qui joue Mina, qui, elle, est une étudiante en informatique quantique. Et c'est elle qui va me fournir le bon algorithme pour me donner la réponse pour l'immortalité.
Ah oui! Mais comme c'est un personnage qui va... probablement à l'encontre de vos valeurs, là, de tout ce qui ouais. veut. Ben, peut-être que vous voulez être immortel comme à peu près tous les êtres humains, mais sinon, est-ce que c'est... je ne sais pas, est-ce que c'est confrontant pour vous de jouer ce genre de personnage-là non. ou c'est plutôt
En fait, non, c'est jouissif.
Oui.
Oui, absolument, parce que le théâtre est fait pour nous envoyer un miroir de la société. Puis le théâtre nous permet ça, nous permet de jouer ces choses horribles. Alors c'est un privilège, en
ouais,
fait.
Oui, c'est comme une exutoire ouais. en quelque sorte.
Oui, ben c'est vraiment un privilège de tu sais, si on va au théâtre, en tout cas moi, c'est surtout pour être choqué, dans le sens de choc.
Mm-hmm. Pas pour être diverti nécessairement.
Non, exactement, il y a ouais. une différence entre juste le divertissement mm-hmm. puis quelque chose qui nous renvoie une image qu'on n'aime pas nécessairement. Tu sais, c'est Genet qui disait ça... Le théâtre est un miroir sur le monde. Puis si tu n'aimes pas ce que le miroir te renvoie, ben casse pas le miroir, mais change le monde.
Pose-toi des questions. Oui, 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 oui. Est-ce qu'il y a des moments pendant les répétitions qui vous ont marqué particulièrement ou donné des frissons?
Ça s'en vient. Là, c'est sûr qu'on est en salle de répétition.
Ouais.
Mais quand là, on va rentrer en salle... un énorme décor, les costumes. C'est vraiment un beau terrain de jeu pour les concepteurs aussi. Fait que j'ai bien hâte qu'on mette tout ça ensemble.
Là. Est-ce que vous acceptez de rester avec nous? Parce qu'il nous reste 30 secondes, puis j'ai encore 3-4 questions à vous poser
absolument.
Après la pause.
Absolument.
On vous libérerait vers 10h05, 10h10.
Très bien.
Merci, Maxime Desnommé.
Merci.
Je l'ai appelé Maxime Desnommé. C'est de nommer. Il faut le dire, une fois pour toutes, parce que je reçois toutes sortes de communiqués où on met des accents aigus sur le premier E de votre nom de famille,
oui.
mais non, c'est vraiment Denommé. Alors, Maxime Denommé est avec nous pour nous parler de son rôle et de la pièce Dracula, un nouveau règne du mal qui est présenté au Théâtre Denis Dupelletier du 17 mars au 14 avril. On poursuit la conversation au retour de la pause.
Écoutez au quotidien avec Hélène Denis.
Et en studio, toujours en compagnie de Maxime Denommé, qui incarne Dracula dans la pièce Dracula, un nouveau règne du mal, mise en scène par Frédéric Dubois. Vous me disiez, Maxime, que c'est la première fois que vous travaillez avec lui. Qu'est-ce que sa mise en scène propose?
C'est un très bon choix. Quand quand Claude est décédé, il fallait trouver un remplaçant. Il est vraiment très bon. Il est très à l'écoute de ce que ça raconte. Marie-Claude aussi est très
Celle qui réceptive. Signe l'adaptation,
ouais. Celle qui écrit le texte, Marie-Claude Verdier. On est rendu à la V10, là, la version 10. Ça fait longtemps qu'on la lit, on essaie
ça
de
ça
voir...
Ça fait longtemps, ça fait combien de temps?
Ça fait 5 ans qu'elle est là-dessus.
Ah oui?
Elle a travaillé longtemps avec Claude. Mais ça fait à peu près un an que nous, on la gagne, on la lit, puis on a des commentaires. Oui, mais telle affaire, est-ce que ça... Parce que quand on est en science-fiction, il faut que tout se puisse, là.
Ouais.
Fait que c'est pas évident. Mais elle est vraiment incroyable, Marie-Claude. Elle nous arrive avec des nouvelles versions où elle a tout pris en compte, nos interrogations. Fait que on a une version qui se tient. Tout le monde est content. La mise en scène, ça va très bien.
Ouais, vous parliez d'un bunker sur scène. Qu'est-ce qu'on va voir?
C'est qu'on commence vraiment très à l'avant-scène, à l'appartement des jeunes. C'est comme un appartement de geek, là, où tous les jeunes sont et qui rêvent d'aller rencontrer David Rand, qui est Dracula. Et plus ça va, plus les murs se lèvent pour... on prend toute la profondeur du théâtre, alors c'est vraiment un effet de perspective. Le décor est assez grand et vaste, mais en même temps très sobre, parce que c'est comme un bunker vide, en fait, au final. Là.
Et c'est très contemporain, là. Vous ne portez pas de cape noire, vous n'avez pas les dents de vampire.
Non, on n'est pas dans le vampire.
Il n'y a pas de crucifix, d'ail, etc.
Non.
Aucun clin d'œil à ça.
Oui, il y a des clins d'œil, mais pas les canines.
Est-ce qu'il y a de la musique sur la scène?
Oui, il y a beaucoup de musique, oui. Les scénographes se payent la traite, là. C'est un show qui permet... quelque chose d'assez épique.
Oui. Et il y a toujours la jeunesse, les étudiants qui vont voir la pièce, les autobus jaunes, comme en parlait Mario Gérard dans la presse.
Oui, c'est la 3e ou 4e fois que je joue là. Puis c'est vraiment... parfois, c'est plus difficile pour la concentration quand les jeunes sont un peu plus...
dissipés, oui.
Mais en même temps... la réaction ne ment pas, là.
C'est ça.
Puis ce qui est bien aussi, je trouve, avec cette année, avec la saison que Claude a fait avant de partir, c'est que ça se passe, là. Je me rappelle au lancement de saison, je lui ai même dit sur scène, c'est incroyable à quel point ta saison, elle est forte, là. De
elle captive, je pense à Agamemnon, là,
Agamemnon and the Ring,
tabac, là.
C'est vraiment une belle façon de raconter les Atrides aux ados, ça marche. La réaction des ados, ça ne ment pas. C'est là que j'ai hâte de voir, parce qu'on sait dans quoi on joue quand on rencontre le public, là. C'est là qu'on comprend tout à fait... qu'est-ce qu'on est en train de faire.
Ouais.
Puis j'ai bien hâte de rencontrer ces jeunes-là à partir de la semaine prochaine. Ouais.
Est-ce que vous avez découvert le théâtre adolescent, vous, le théâtre sur une scène là, vivante? Là?
Oui. Mon premier spectacle, c'était à Denis Pelletier.
Une sortie culturelle?
Absolument.
Scolaire,
c'était Ubu Roy, et c'est Marc Favreau qui jouait Ubu.
Favreau, qui était Sol aussi.
Oui, exactement.
Et est-ce que c'est ce genre de sortie-là qui vous a donné envie de pratiquer le métier?
Oui, mais j'avais déjà eu la piqûre en faisant des cours d'art dramatique au secondaire. Mais c'est vraiment à cet âge-là que je me suis dit, je veux faire ça.
Oui.
Et j'ai annoncé à mon père de... On était sur une ferme à Sainte-Brigitte-d'Iberville. Mais mes parents étaient dans la salle quand j'ai découvert aussi ma passion, puis que j'étais doué pour faire le cabotin, finalement, faire rire les gens.
Et, le public.
Comme ils étaient dans la salle, ils ont découvert en même temps que moi. Fait qu'ils ont toujours, ils m'ont toujours encouragé à quitter la ferme. Alors mon père a vendu les vaches, puis je suis parti. Au Cégep Saint-Laurent, étudiant théâtre.
Ah oui, parce que vous voyez, avant de découvrir votre talent comme comédien, vous voyez comme la relève à la ferme?
Il n'y a jamais... Il a espéré autre chose pour moi.
Oui. Parce que c'est du 7 jours sur 7. Vous parlez aussi à une fille d'agriculteur.
Ah oui.
Et Maxime, vous étiez l'invité de Denis Martin Chabot la semaine dernière pour parler de la mise en scène de la pièce À partir de là, qui est présentée jusqu'au 10 avril dans la petite salle de la Licorne, avec, paraît-il, une révélation, Félix-Antoine Bénard. Il faut voir cette pièce. Et vous allez jouer aussi dans le conte de Monte Cristo.
Oui.
Vous êtes bien occupé d'après l'œuvre d'Alexandre Dumas, mise en scène par Serge Denoncourt, qui va prendre l'affiche à Montréal, Gatineau, Québec. Ça commence le 26 juin, la salle Pierre-Mercure à Montréal. Et est-ce que vous êtes capable de répéter votre rôle dans Le Comte de Monte Cristo en même temps que travailler sur Dracula ou comment ça se passe?
Ça va venir, mais pour l'instant, je ne suis pas du tout là. Je viens de finir la mise en scène. Donc je suis tout pour Dracula. Et quand je vais commencer, ça va être réglé. Je vais me concentrer sur l'autre.
OK. Un projet après l'autre, pas en même temps.
C'est-à-dire que j'en répète en même temps, mais ma tête ne peut pas être complètement à deux places en même temps.
Oui, surtout avec le rôle que vous avez. Là,
oui.
Vous en... Est-ce qu'il y a beaucoup de textes à apprendre pour Dracula?
C'est pas si pire. Il y en aura plus pour Comte de Monte Cristo.
Ah oui, OK.
Oui.
J'ai vu les...
Il faut pas que je pense trop loin, parce que je vais angoisser.
Vous allez tilter. Oui.
Mon ami me dit un jour à la fois, je dis non, une répète à la fois.
Ah oui. Alors, on va vous laisser à vos secondes précieuses. Est-ce que vous répétez aujourd'hui?
Oui.
Oui?
Mais en fait, j'enseigne aussi au conservatoire.
Ah oui? Qu'est-ce que vous enseignez? L'interprétation?
Oui.
Oui. Bon, bien, Maxime Denomé, merci de votre générosité, vous qui êtes très, très pris par les temps qui courent. Et on vous dit le mot de Cambronne pour la grande première, mais pour la série de représentations de Dracula, un nouveau règne du mal qui prend l'affiche le 17 mars au Théâtre Denise Pelletier. On a bien hâte de découvrir cette pièce. Merci, Maxime.
Merci beaucoup.
C'est toujours pareil. Brisé, vandalisé, babe, une fois de trop. T'as pris tes affaires. On a beau crier, se déchirer, grave à fleur de peau. Encore une fois, on s'est fait avoir. On s'est pris dans nos propres jeux. Combien de fois faudrait-il se dire adieu. La vie est belle, belle. Des fois je rêve, rêve. Et que tu t'aimes, t'aimes. Le couple parfait, non, ça nous ressemble pas.
Ça nous ressemble pas. Ça nous ressemble pas.
Tu dis que t'as changé. Que t'es plus la même, tu joues toujours la même scène. Qu'est-ce que tu crois, on se connaît trop? Exorciste, tous nos démons sont ressortis. Toujours pris dans le raccourci, l'amour poignarde et nous poursuit. Après toutes ces épreuves, on s'aime à mourir. Tu pars, tu reviens, parfois je te fais courir. Bébé, l'histoire se répète, je meurs de faim ton sourire. Comme toi, il n'y en a pas d'autre.
Barnève et sa chanson, ça nous ressemble pas.
Michel Potvin est au but du fil. Merci de votre patience, Michel.
Aucun problème. Bonjour.
Bonjour, bonjour. C'est la chronique économie avec vous, vous qui êtes professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. On est dans l'actualité en pleine guerre au Moyen-Orient et cette guerre a des impacts jusque chez nous, Michel.
Ben oui, la guerre est un peu à l'autre bout du monde, mais on en ressent les impacts. Puis, c'est pas une question non plus de minimiser la souffrance des Iraniens. Là, on a des impacts, eux, ils en ont des bien pires, mais ouais. On est quand même affectés. Quand on parle de l'Iran, on parle du Moyen-Orient, on pense tout de suite au pétrole, mais effectivement, c'est par là que ça commence. Le prix de l'essence à la pompe va augmenter significativement là, depuis le début de la guerre. Avant la guerre, on était autour de 1,40 le litre. Hier, ça a monté jusqu'autour de 1,77, presque 1,80 le litre. Est-ce qu'on s'en va vers le 2 $? Bon, ce ne serait pas la première fois. Là. Je me souviens qu'à l'été 2008, on était à 2 $ le litre en dollars de 2008.
Alors, ah oui, ah oui.
Donc, on trouve ça élevé aujourd'hui, mais on a déjà vu pire.
Alors, comment on explique cette hausse, Michel? Allô?
Oui, vous m'entendez bien?
Oui, je me demandais comment on explique cette hausse.
Oui. Oui, alors il y a plusieurs facteurs qui sont tous reliés à la guerre. Donc le premier, effectivement, on attaque l'Iran et puis ce qu'on a bombardé là en premier, non, en plus des défenses antiaériennes ou la capacité, peut-être les installations nucléaires, c'est la capacité productive de l'Iran de produire du pétrole. Donc on a détruit les puits de pétrole. Israël a même en fin de semaine bombardé des réserves de pétrole à Téhéran. Ce qui, en passant, n'est plus au président Trump. Donc, en Iran, là, ce qu'on avait de production d'Iran, là, c'est pas mal tombé presque à zéro. l'Iran ne s'est pas laissé faire. Donc, il y a eu une contre-attaque, puis pas seulement contre Israël et les États-Unis, mais contre beaucoup de pays du Golfe, autour du Golfe du Persique. On pense au Qatar, le Bahreïn, l'Arabie saoudite, les Émirats, le Koweït et Oman. Donc, on a attaqué des installations de raffinerie puis des puits de pétrole dans ce coin-là. Donc, ça réduit la capacité productive mondiale, si on veut. Et puis finalement, la moindre cause, l'Iran tente de fermer le détroit d'Ormuz. Donc, le détroit d'Ormuz, c'est à la sortie du golfe Persique. Là, l'Iran est comme soit au nord ou à l'est, là, c'est un port diagonal du golfe Persique. Les pays du golfe sont de l'autre côté du golfe. Et donc, on essaie de fermer le détroit, puis par ce détroit transite 20 % du pétrole et gaz naturel mondial. Donc, c'est énorme. Bon, le président Trump a dit qu'il voulait essayer de sécuriser cette voie maritime, mais ça menace quand même, je ne suis pas sûr que ça soit complètement fait. L'Iran est collé sur le détroit d'Ormuz. Alors, tout ça, ça fait que le prix du baril de pétrole était à 120 $ hier en milieu de journée, alors qu'il était à 70 $ avant la guerre. Donc, une augmentation, pas tout à fait de 100 %, mais quand même significative.
C'est bien, à la une du Journal de Montréal, on écrit ça, 50 $ à 120 $ de plus par mois. Exactement. Pour faire le plein.
Par contre, ça a rebaissé hier. Trump a pris la parole là, en milieu d'après-midi puis a affirmé que la guerre ne durerait pas longtemps, qu'ils atteignaient leurs objectifs. Ça a semblé rassurer les marchés. Oui,
momentanément.
Puis, c'est ça. Le baril est retombé à 83. Donc, c'est la chute de 120 à 83. Là, je pense qu'on n'avait jamais vu ça dans la même journée. C'est énorme. Ce matin, j'ai regardé. Bon, je n'ai pas regardé tout de suite avant l'émission, là, mais autour de 9 heures, le baril se rendu à 93, donc en bas du 100 $. D'autres facteurs de détente là, qui rassurent un peu, le G7, également l'Agence internationale de l'énergie, les États-Unis ont des réserves stratégiques de pétrole qui sont énormes. Là. On parle de entre 1 et 2 milliards de barils de pétrole qui sont des réserves. Comme ça, le pétrole, ça se conserve bien. Alors, on s'est dit, peut-être qu'on va commencer à accéder à ces réserves-là. Seulement les États-Unis, ils ont 400 millions de barils. Donc, ça permet là, de tempérer un peu les chocs à l'offre de pétrole. On pourrait se rappeler qu'en 2022, Joe Biden avait pigé à peu près 180 millions dans la réserve américaine pour essayer de faire baisser le prix de l'essence à la pompe. Ça avait été créé, si vous vous souvenez, en 2022 par la guerre en Ukraine, là où il y avait eu une espèce de petite crise énergétique, là, petite moyenne là, pour certains pays. Ça avait fait hausser le prix du pétrole. Donc Biden s'en était servi. Donc ça aussi, ça peut avoir une espèce d'effet tampon là qui va mitiger ou limiter un peu la hausse. C'est ça, je regardais. Donc hier, on avait, je pense, les prix à la pompe 1,77. Ce matin, je regardais, c'était autour de 1,50. Donc ça a baissé un petit peu. Bon. On était à 1,40 avant le début de la guerre.
Alors, j'allais dire, on va en profiter pour aller faire le plein, mais ça demeure quand même assez cher. Oui. On a toujours l'impression...
Transport en commun.
Oui, merci. On a toujours l'impression que les prix... Ou restez chez vous, faites du télétravail, surtout avec le verglas qui s'en vient. Alors, on a toujours l'impression que les prix à la pompe augmentent vite, même si l'essence vendue a été payée moins cher avant l'augmentation du prix du baril.
Oui. Toujours une critique qu'on a. On dit, bon, le baril a augmenté, mais ça ne devrait pas se refléter immédiatement à la pompe parce que le temps que ces barils-là qui coûtent cher sont achetés par les raffineries et puis ensuite distribués, bien, ça prend du temps. Donc, la hausse des prix devrait être une semaine, deux ou trois semaines plus tard ou un mois. Là. Mais ça augmente presque instantanément. Ce qui arrive, c'est que les distributeurs d'essence, ceux qui vendent l'essence, comment ils évaluent leur coût, c'est le coût de remplacement. Donc, ils disent, si je vends un litre d'essence, ça va me coûter combien de remplir le réservoir? Mais le coût, ce que ça va leur coûter, bien, c'est le prix aujourd'hui du baril aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une espèce de notion de coût d'opportunité. Là. En vendant l'essence aujourd'hui, même si ça va coûter moins cher, ça va me coûter très cher de la remplacer. Donc, je la vends déjà à ce prix-là. Puis, c'est un peu la même chose quand ça descend, mais ça redescend. Regardez, le prix est à 1,77. Le baril a baissé, comme je disais tout à l'heure, mais le prix à la pompe s'est ajusté immédiatement également. Donc les prix à la pompe réagissent, suivent le prix du baril de pétrole. Donc, on n'a pas ces effets-là de stock ou tout ça qu'on pourrait penser. Là. Donc, c'est un petit peu pour ça. C'est vraiment, on se base sur une notion de coût d'opportunité. Si je mets un litre d'essence, ça me coûte combien le remplacer? Bien, ce que ça me coûte, c'est le prix du baril de pétrole aujourd'hui, pas celui d'il y a deux semaines. Mm-hmm.
Michel,
donc, ça nous frustre parfois dans des périodes de hausse, mais des périodes de baisse, je pense qu'on en profite aussi plus rapidement.
Bon. J'imagine qu'il y a d'autres conséquences économiques.
Oui, bon, le pétrole, on pense pétrole, énergie, c'est relié à tout. Il y a de l'énergie dans tout. On vient de parler du transport par automobile. On peut aussi penser au transport aérien. Là, le pétrole ou le fuel qu'on met dans les avions, c'est une composante importante là, des coûts d'un vol. Donc, le prix des billets d'avion va s'en ressentir, évidemment. Puis peut-être plus... de façon plus, je ne veux pas dire sérieuse, mais importante pour la plupart des gens. L'industrie agroalimentaire dépend énormément de l'énergie. Les agriculteurs utilisent beaucoup soit pour chauffer des serres ou conduire leur machinerie de pétrole. Mais aussi, il y a beaucoup de produits dérivés du pétrole. On n'a qu'à penser aux engrais chimiques, là, qui sont des dérivés du pétrole. Puis le tiers des engrais chimiques passe par le détroit d'Ormuz. Alors, si ça se prolonge, là, on pourrait voir des hausses du prix des aliments. Mais comme nous, on produit du pétrole, on va avoir aussi... si vous voulez, des bénéfices à l'économie canadienne, là, peut-être moins au Québec, mais au Canada dans son ensemble, parce que quand le prix du pétrole augmente, bien, les provinces là, qui produisent l'Alberta, Saskatchewan, Terre-Neuve, Labrador, bien, eux en bénéficient. Et Desjardins, hier, se disait qu'ils avaient prévu une croissance pour 2026 pour le Canada de l'économie canadienne de 1,4. Ils révisaient à possiblement 1,6. Donc, l'économie canadienne va croître un peu plus vite. C'est sûr, ça ne sera pas uniforme dans tout le pays. Là. Les provinces productrices de pétrole vont en bénéficier, alors que le Québec et l'Ontario, ben, ça va être un peu plus difficile. Puis finalement, une autre conséquence économique qui est importante, c'est l'inflation. Comme le pétrole, l'énergie, ça rentre dans la production d'à peu près tout. Mais si la guerre se prolonge, il va avoir un impact sur le niveau des prix. Donc, si l'inflation augmente, comment va réagir la Banque du Canada? Est-ce qu'ils vont recommencer à hausser un petit peu les taux d'intérêt? Tout ça, on verra là, si la guerre se prolonge indûment. Mm-hmm. Puis finalement, bien, c'est plus loin de nous, mais la Chine achetait 80% de la production iranienne. Il y avait toujours des sanctions contre l'Iran. On ne pouvait pas vendre son pétrole n'importe où. La Chine, ils avaient des deals, si vous voulez, avec la Chine, l'Iran et la Chine. Mais là, évidemment, en attaquant l'Iran, l'Iran reproduit beaucoup moins de pétrole. Mais la source se tarit pour la Chine. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'elle avait quand même prévu le coup. La Chine a été prudente, puis depuis un an, elle a accumulé des réserves de pétrole pour plusieurs semaines. Donc, même en Chine, l'économie chinoise ne devrait pas subir trop de contre-coups à court terme. On verra si ça se prolonge pendant des mois. Disons que c'est pas jojo là, sur la planète économique mondiale, puis non plus pour les Iraniens qui subissent cette guerre, puis aussi au Liban, là, le Liban par la bande qui est affecté. On va espérer que le conflit ne durera pas trop longtemps.
Évidemment. Merci beaucoup, Michel. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.
Tony Shane de Smoothie.
Sabrina Imbeault de Sept-Îles est la mère d'Arthur Auger, qui a 12 ans. Depuis sa naissance, elle est aussi sa proche aidante. Le journal Le Nord-Côtier l'a rencontrée afin d'en savoir plus sur son quotidien de proche aidante à temps plein. C'est sûr que dès qu'on prend soin d'un proche dans une situation de handicap ou de besoin exceptionnel, inévitablement, on est proche aidant. Et si on n'emploie pas ce terme-là, je suis maman à la maison, mais ça s'équivaut. J'ai des soins à donner comme si j'étais sa préposée. Raconte Sabrina Imbeault. Depuis sa naissance, Arthur Auger a eu besoin de soins médicaux réguliers. Le jeune garçon est lourdement handicapé. C'est un enfant qui ne parle pas, il ne se déplace pas tout seul, il ne fait rien du tout tout seul. C'est vraiment s'occuper d'un bébé qui grandit et ça devient de plus en plus lourd physiquement de s'occuper de lui, dit sa mère. Sabrina Imbeault est à temps plein à la maison depuis maintenant 4 ans. Avant, elle travaillait 3 jours à l'extérieur. Pour pouvoir aller travailler, elle et son conjoint avaient recours au service d'un gardien grâce au programme Chèque emploi service, maintenant appelé allocation autonomie à domicile. Puis, le couple s'est retrouvé sans gardien. Et au même moment, le commerce pour lequel elle travaillait fermait ses portes. Sabrina et son conjoint ont pris la décision qu'elle resterait à la maison pour s'occuper d'Arthur à temps plein. C'est beaucoup plus simple de toujours avoir un parent à la maison, puis après ça, de recevoir un peu d'aide par-ci par-là pour que moi, je puisse avoir soit des sorties ou des rendez-vous, faire des courses. Elle explique que lorsque on est parent d'un enfant handicapé, lourdement handicapé, il est difficile de planifier les journées de congé de maladie au travail. Tu ne sais pas quand il va être malade. C'est vraiment un investissement à temps complet. Sabrina est bien entourée. Elle peut compter sur son conjoint Tommy Auger, sa mère, qui, depuis qu'elle est à la retraite, est la nouvelle gardienne officielle du jeune garçon, sa belle-mère, sa famille et celle de son conjoint, ainsi que des amis proches. Être mère et proche aidante à temps plein a des conséquences sur le plan financier. Actuellement, Sabrina est à la charge de son conjoint, qui est le seul salaire de la maison. Les impôts sont faits en fonction que moi, je suis à la charge, puis ça s'ajuste en fonction de ça, dit Sabrina. Elle explique aussi que la famille a droit à des allocations puisque leur enfant est handicapé. Ils ont droit à un supplément exceptionnel. Ça n'équivaut pas à un salaire, mais ça apporte une certaine aide. Pour le soutien physique, la famille utilise le service de gardiennage avec l'allocation autonomie à domicile. Bien que Sabrina et son conjoint reçoivent du soutien physique et monétaire, la mère déplore que les processus administratifs sont parfois lourds. Merci d'écouter Au quotidien. On est ensemble encore une demi-heure. À venir, la chronique de Dominique Tremblay sur les Jeux paralympiques sont en cours.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Saudade, saudade, j'aimerais danser sur les vagues. Elles seront là, comme moi pour toi, que belle est ça. Saudade, saudade, j'aimerais danser sur les vagues. Une samba dans notre palace tropical. Un buveur sur la lampe, à l'arrière du camion de fruits. Sur le ciel de tes jasmins, à l'éther à l'eau affilée. De l'océan, cela coulait comme le Titanic. Oh, c'était tenant, oui. Comme le tonnerre et la pluie. Yeah, yeah, yeah. La-di-da. Ba-da-da-da, yeah. Si je reviens à Montréal, c'est pour repartir un endroit. Saudade, saudade, j'aimerais danser sur les vagues. Seront là, comme moi pour toi, que belle est ça. Saudade, saudade, j'aimerais danser sur les vagues. Une samba dans notre palace tropical. Sans permis, je souris tellement
quand ça fait mal. Recommended to sortir quelque part sous le bruit des vagues. J'suis parti sans faire de bruit. Veuillez me laisser un message. Alors il colle en collant, oui. Moi c'est Michael Samba. Yeah, yeah, yeah. La-di-da.
Camion de fruits, une chanson de Mike Clay.
Merci Mathieu. Et c'est la chronique de Dominique Tremblay. Non, vous n'avez pas la berlue, nous ne sommes pas jeudi, mais depuis hier, Dominique nous offre une série spéciale autour des Jeux paralympiques qui battent leur plein en ce moment. Bonjour Dominique.
Bonjour Hélène.
Alors Dominique, une journée très occupée aujourd'hui aux Jeux paralympiques. On commence par le paraski de fond.
Oui, c'est ça. Tout, à peu près tous les sports étaient en action, à l'exception du biathlon et de la planche à neige, le snowboard. Alors, en ski de fond, on a gagné une huitième médaille. C'est Nathalie Wilkie, qui était la porte-drapeau du Canada, qui a gagné la médaille de bronze dans la discipline du sprint. C'est probablement la course de ski de fond, de paraski de fond la plus spectaculaire qui peut exister.
Ah oui.
Alors, ça se déroule de la façon dont chaque athlète fait une course de qualification où, sur une distance de 3 km, 2 ou 3 km, et les 12 meilleurs temps sont qualifiés pour les demi-finales. Et par la suite, les trois premiers de chaque demi-finale s'affrontent en finale. Et dépendant du niveau d'handicap, plus c'est élevé, plus les skieurs vont partir tôt et avoir un temps d'avance sur les athlètes qui sont un peu moins handicapés. Et donc, ça fait un peu de course, un peu de le loup et la lièvre, là, la fourmi, la tortue et le lièvre.
Oui.
Et c'est intéressant et ça arrive des fois que ce soit la tortue qui gagne, comme la fable de La Fontaine, et des fois c'est le lièvre qui prend sa revanche. Et pour Nathalie Wilkie, qui avait déjà gagné deux médailles en biathlon, eh bien elle a terminé troisième dans la catégorie debout. Elle partait dans les dernières de sa course et a réussi à rattraper trois skieuses, mais les deux athlètes avant d'elle étaient un peu trop rapides. Et je vous dirais que les conditions de ski sont proches du printemps, sinon de l'été. Il fait quand même assez chaud à Cortina et ça rend la neige très... on va dire de la slush, on connaît très bien ça au Québec, là, pendant les temps qui courent avec les belles températures. C'est le même cas. Et pour.
Je sais pas en italien, hein, comment ça se dit, la slush?
Je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé, mais je pense que les athlètes, eux, vont le savoir quand ils vont revenir à la maison, parce que ça ressemble, c'est très granuleux. Et ça change beaucoup entre les courses du matin et de l'après-midi. Et regardez ça à la télé, là, c'est quand même drôle parce que. Bon, il y a la piste de ski de fond là, qui fait un genre de cercle là, avec des tournants et des côtes et ainsi de suite. Mais de chaque côté, là,
ça revole.
De la piste de ski de fond, c'est du gazon. Là. Il n'y a pas de doute. Là. C'est quasiment vert, printemps. Là. Puis c'est donc c'est difficile et non, les travailleurs de partage pour les skis travaillent fort et les Canadiens aujourd'hui, spécialement en ski de fond, là, ont eu l'air d'avoir un petit peu plus de difficultés. Marc Arendt, qui était gagnant du médaille d'argent à Pyeongchang en Corée en 2022, a quant à lui terminé sixième en finale. Je dirais même une déception là pour lui. Là, il a levé les bras en dépit à la fin de sa course, comme si il était dans la mélasse là, en essayant d'avancer avec ses skis.
Ah, une bonne journée.
C'est pas une bonne journée pour lui, mais il va avoir d'autres moments pour se reprendre. Et en ski de fond, je voudrais souligner la belle performance de Lynn-Marie Bilodeau, la Sherbrookeoise, qui a terminé à 17e, n'a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales, puisqu'il fallait terminer dans les 12 premiers. Mais le sprint, ce n'est pas sa course de prédilection. Elle préfère les courses qui sont beaucoup plus longues et profite de l'endurance.
Et on poursuit avec le curling, l'équipe canadienne qui continue de dominer.
Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est très de bonne heure, là, ce matin. Vu que nous, au Québec, on a eu un changement d'heure et ça n'est pas encore arrivé en Europe. Le Canada affrontait la Chine, qui est l'équipe numéro un au pays, et a gagné un match qui semblait assez facile, là, de 9-3 contre la Chine. Mais c'est vraiment là au septième bout, l'avant-dernier bout de la rencontre, où le Canada a mis énormément de pression sur les Chinois et les Chinois ont manqué quelques lancers de pierre, ce qui a permis au Canada de marquer 4 points. Donc, c'était 5-3 avant le septième bout. Et donc, ça s'est terminé 9-3, comme je l'ai dit plus tôt. Et la Chine a serré la main des Canadiens pour dire on n'ira pas au huitième bout, là, c'est le match est terminé. Et je pense que ces deux équipes là, vont se retrouver en finale là, pour la médaille d'or. Je pense à moins d'une grosse surprise. Là, le Canada joue vraiment, vraiment bien. Ils ont lancé pour à peu près une moyenne de 75% lors du match contre la Chine, ce qui est un très bon pourcentage de réussite en curling, en fauteuil roulant. Donc, ça va très bien là, pour les Canadiens.
On leur souhaite l'or. Vous poursuivez, Dominique, avec le ski para-alpin.
Oui, on avait beaucoup d'espoir en Kali Eriksson dans la catégorie pour les athlètes avec une déficience visuelle, puisqu'il avait déjà gagné à ses premiers Jeux paralympiques 2 médailles. Et là, aujourd'hui, c'était la compétition de combiné, donc qui... La première course était un slalom géant, ou super géant, pardon, et un slalom en après-midi. Kylie avait terminé deuxième du super géant ce matin, trop tôt ce matin, encore plus tôt que le curling. Là, je pense qu'il était 4h15, 4h30 du matin, heure du Québec, là, quand il a couru. Mais durant son slalom, s'est contenté de la 5e place, ce qui lui a donné un total pour de la 4e position, juste au bas du podium, à 0,04 de seconde de la médaille de bronze. Donc, je sais pas que c'est décevant, là, parce que Kali Eriksson était quand même à ses premiers Jeux paralympiques, peut-être un petit peu plus inconnu comme athlète, là, donc qui surprend, mais... Terminer 4e là, à si peu de distance d'une médaille, c'est souvent triste comme résultat. Mais quand on se met à repenser, il était quand même 4e au monde, donc c'est quand même pas si pire pour une première fois sur la grande scène paralympique.
Et finalement, c'est le dernier match de la phase du tournoi à la ronde en para-hockey.
Oui, c'est cela. Les demi-finales vont se présenter le 12 mars prochain, donc jeudi. Vendredi.
Le 12 mars. Mardi, le 12 mars, c'est bien jeudi.
C'est bien jeudi. On finit par tous les jours, finissent à se ressembler. On parle de sport tous les jours, donc je suis un peu mélangé. Donc, c'est les demi-finales. Le Canada a gagné hier un match extrêmement facile contre le Japon, 14-0. Aujourd'hui, ils affrontent, pas nécessairement pour la forme, mais quasiment, la République tchèque. le gagnant de ce match-là va terminer en première position du classement là, du tournant à la ronde. Dans il y a deux poules de quatre équipes et devrait affronter la Chine en demi-finale. Donc le match entre le Canada et la République tchèque va avoir lieu dans quelques heures, dans deux heures, à 12h30, on peut le voir sur le site de Radio-Canada. Et Vincent Boily, un athlète d'Allemagne, est le meilleur compteur de l'équipe canadienne jusqu'à présent. Il n'est pas le premier, il est le deuxième compteur du Canadien avec une fiche de 4 buts et 3 passes. Donc, il sera surveillé et on espère que ça va bien vivre le Canadien et on reparlera plus tard de la demi-finale. Ça risque d'être toute une compétition avec les Chinois.
Ah oui. Vous nous parlerez aussi du décompte là, des médailles.
Oui, bien rapidement, le Canada est 11e au total des médailles d'or avec une seule et on est 8e au total des médailles avec 8 médailles.
Merci. Merci beaucoup, Dominique. On se retrouve demain.
Avec plaisir. Bonne journée. Au revoir.
Je n'ai jamais assez de temps pour dire ce que j'ai à dire, faire ce que j'ai à faire. Anyway, je ne fais que fendre l'air, courir, ne jamais venir, de faire ce que j'ai à faire. J'ai grandi insatisfait à travers mes envies. J'aimerais être là comme la neige qui fond, devenir un ruisseau qui se perd à l'horizon. Je n'ai jamais son nid, je suis endormi, les yeux ouverts. Quand je suis heureux avec vous, je suis ailleurs, je me bats. Je n'ai jamais assez de temps pour dire ce que j'ai à dire, faire ce que j'ai à faire.
Il s'appelle Le Grand Phil et sa chanson, c'est « Assez de temps ».
Philippe Mercure signe une chronique aujourd'hui « Jouer dans un orchestre à 10 ans ». Je vous la lis à l'instant. « Les violons, je veux beaucoup d'archets de conviction. Les violoncelles jouent fort et on doit aussi vous entendre. Fallacie, fallacie, fallacimiré. Fallacimiré. On s'écoute, on joue en équipe. » Sur scène, la chef d'orchestre Sandrine Zuideroff ne ménage ni les conseils ni les encouragements. Devant elle, une 20aine d'élèves du primaire font glisser leur archet sur les cordes de leur violon alto, ou de leur violoncelle. Nous sommes à l'école Charles Lemoine dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal et nous assistons à une répétition d'orchestre dirigée par l'organisme Musique à l'Unisson. La mélodie de la pièce Lost Woods, tirée du jeu vidéo Zelda, se fait entendre. On perçoit bien quelques fausses notes, mais c'est normal. Nous sommes en début d'année et les jeunes musiciens ont jusqu'au mois de juin pour maîtriser leur œuvre. Quand on joue ensemble, c'est comme si on était un seul instrument, mais avec un son plus gros. C'est vraiment beau, m'explique Alejandro avec des étoiles dans les yeux. L'élève de quatrième année joue du violon alto. Si tu te trompes de note, ça paraît moins, me révèle Alizé, elle aussi une joueuse d'alto de quatrième année. Mais bon, on veut quand même apprendre nos notes pour que ce soit beau. Musique à l'unisson est basée sur une conviction. Tous les enfants devraient avoir le droit d'apprendre la musique. Son approche est inspirée du modèle Il Sistema, né au Venezuela et dont est notamment issu le chef de l'Orchestre symphonique de Montréal, Raphaël Payaré. La philosophie, c'est d'avoir le moins de barrières possible, explique Mme Zuideroff, cofondatrice et directrice générale de Musique à l'unisson. Les cours sont donnés à l'école après les classes, minimisant le besoin de transport pour les parents. Dans les premiers rangs des gradins de l'auditorium, on aperçoit d'ailleurs un joyeux fouillis de sacs d'école, de salopettes de neige, d'étuis d'instruments ouverts et de mitaines lancées à la volée par les élèves pressés de monter sur scène. À Pointe-Saint-Charles, une navette piétonne est même organisée en provenance de l'autre école primaire du quartier, Jeanne Lebert, afin de permettre au plus d'enfants possible de participer. Musique à l'unisson offre aussi des cours dans quelques écoles du quartier Villeray. Pas besoin de payer des centaines de dollars pour acquérir un instrument, celui-ci est fourni avec le programme. Quant aux coûts, ils sont modulés selon le revenu familial. Les familles qui se trouvent sous le seuil de faible revenu n'ont rien à payer du tout. Ça représente la moitié de nos élèves, dit Sandrine Zuideroff. Pendant la première année, les élèves apprennent à jouer de leur instrument. Dès la deuxième, ils peuvent rejoindre l'orchestre tout en continuant les cours d'instruments et même de chorale s'ils le souhaitent. Sandrine Zuideroff vante le fait que les élèves plus vieux prennent les plus jeunes sous leur aile et les aident à s'intégrer. Ceux qui ont eux-mêmes éprouvé des difficultés à leur début font souvent les meilleurs mentors. On voit beaucoup d'entraide et de complicité. Ça vient briser le fait que les élèves se tiennent presque toujours avec des amis de leur classe. Ça fait apparaître de nouvelles dynamiques, dit Sandrine. Certains élèves continuent de participer même lorsqu'ils atteignent le secondaire. Évidemment, tout n'est pas toujours parfait. Lors de la répétition à laquelle j'ai assisté, un violon a été confisqué pendant un long moment. Le petit musicien qui se tenait derrière dérangeait les autres et traitait son instrument avec si peu d'égard qu'il risquait davantage de l'abîmer que d'en tirer des notes. « On n'exclut personne, peu importe ce qui se passe », précise néanmoins Sandrine Zuideroff. Ça irait à l'encontre de notre mission. Musique à l'unisson ne vise pas nécessairement à former les futurs musiciens de l'orchestre symphonique, mais à utiliser la musique pour transmettre des aptitudes. Madame Zuideroff mentionne en vrac la persévérance, l'écoute et le travail d'équipe. La transmission du patrimoine est aussi importante, des pièces traditionnelles québécoises étant systématiquement enseignées aux côtés d'œuvres classiques et de choix plus pop. Pour les jeunes anxieux, c'est très bénéfique, précise la musicienne. La musique, c'est quelque chose de prévisible. Les jeunes savent ce qu'on attend d'eux. Olivia, une joueuse de violoncelle de cinquième année, m'a d'ailleurs décrit les répétitions comme un anti-stress, malgré la rigueur qu'elles exigent. Avec la musique, je peux exprimer mes émotions. Quand on joue une pièce plus calme, ça me calme, m'a aussi dit Louise. Musique à l'unisson carbure aux dons, en argent et en instruments de musique, provenant surtout de particuliers et de fondations privées. Des campagnes de financement et des concerts sont aussi organisés afin de rémunérer la dizaine de profs impliqués dans les différents programmes. Sandrine Zuideroff aimerait pouvoir compter davantage sur les subventions publiques. Mais entre la culture, l'éducation et les services sociaux, elle explique avoir l'impression de tomber entre plusieurs chaises. Le garage à musique dans Hochelaga-Maisonneuve, Il Sistema à Montréal-Nord, lancé par Raphaël Payaré lui-même, Sistema Sorel-Tracy dans la ville du même nom, d'autres initiatives comme Musique à l'unisson existent un peu partout au Québec. Sandrine Zuideroff aimerait que ces programmes collaborent mieux entre eux et soient mieux soutenus. Parce que cultiver une sensibilité à l'art, c'est cultiver une sensibilité à ce que l'humanité fait de plus beau, dit Sandrine. Ce ne sont pas les petits Laurier, Emmanuela, Olivier, Laure, Ritège, Hermina et Adam que j'ai rencontrés qui vont contredire leur chef d'orchestre là-dessus. Et je dois dire qu'il y a quelque chose de réjouissant à voir la musique d'orchestre, trop souvent associée à l'élite et à la grande culture, entre guillemets, être rendue si accessible. Merci de m'avoir fait partager votre passion, les amis. Et bon courage avec la musique de Zelda. N'oubliez pas, fallacimiré. C'est donc la chronique de Philippe Mercure, publiée dans la Presse Plus d'aujourd'hui.
For just a chance to win your heart, you could set the bar beyond the stars. I'll do anything, anything you ask me to. Say you want the moon, watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to I wouldn't climb. It's crazy, but it's true. There's nothing I won't do. I'd risk it all for you. To hold your hand and call you mine, I'm trying to be your man till the end of time.
C'est sa chanson « Risk It All ».
Mathieu, c'est vous qui nous en avez parlé la semaine dernière, angine de poitrine.
Oui.
Est-ce que vous en avez dans votre système?
Oui, j'en ai toujours, de
oui.
Angine de poitrine.
Bon, alors, la formation, en fait, c'est un duo, était à Tout le monde en parle dimanche dernier. Et c'est vraiment, vraiment original comme projet. Et le Festival international de jazz de Montréal ajoute à sa programmation un concert qui sera gratuit et qui devrait être couru. Le duo Angine de Poitrine va se produire sur la grande scène extérieure de la Place des Festivals le 27 juin prochain. J'imagine que vous serez là, Mathieu.
Absolument.
Le festival en a fait l'annonce en marge de la participation du duo, justement, l'émission Tout le monde en parle, tandis que le succès du mystérieux groupe originaire du Saguenay, récemment, qui a récemment pris un virage international. Il est devenu le phénomène musical de l'heure. Angine de Poitrine est formé de... je ne sais pas comment le prononcer, KHN, guitariste bassiste, et de Kleck, qui est le batteur, et propose depuis 2020 environ un rock expérimental, principalement instrumental. Alors, on va se laisser avec un peu d'Angine de Poitrine. Et là-dessus, je vous dis un grand merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Mathieu Tessier, à la mise en onde. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée. Est-ce qu'on va se retrouver demain? Je ne sais pas trop. Je vais venir en patin, j'imagine, parce qu'on annonce, oui, du verglas et beaucoup à partir plus précisément, en tout cas, je ne sais pas si je suis précise, mais autour de 6 heures du matin. Demain, donc, l'heure de pointe s'annonce assez fastidieuse. Si vous pouvez rester à la maison, faites-le. Et puis, ben là-dessus, passez une belle journée. Profitez de ce beau mardi avant le mercredi verglaçant qu'on nous annonce. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Environnement Canada qui n'arrête pas d'émettre des avis. Portez-vous bien!